Chapitre 4. Claude habitait de nouveau la Coudraie depuis 3 semaines. Les affaires lentes et absorbantes de la campagne, la rentrée des blés et des avoines, la promenade, quelques visites aux voisins l'occupaient suffisamment. Il n'avait pas le temps de rêver. Si l'image de Thérèse lui était apparue, c'était rapidement, sans qu'il eût le loisir d'y arrêter son esprit. Elle ne lui avait pas semblé d'un autre ordre que le souvenir d'un coin de forêt, de la frondaison retombante d'un groupe d'arbres ou d'une pente verte au bord d'une source. Il n'en avait retenu qu'une impression fugitive d'ombre et de fraîcheur, rien de plus. Mais il faut compter avec les heures d'inaction. Une après-midi que tout se taisait et faisait la sieste autour de lui, les gens des fermes, les bœufs essoufflés de chaleur cherchant l'abri des haies, les oiseaux dont aucun ne se risquait à travers l'espace, les feuilles même ternies par le grand soleil qui buvait la sève, il lisait devant sa fenêtre ouverte. S'il ne somnolait pas, il se sentait cependant l'âme plus molle que de coutume. Tout à coup, sur l'acacia, en face, un écureuil surgit. Accroupi sur une maîtresse branche, les oreilles droites et terminées par une flamme de poils roux, il regardait Claude. Claude fit de même, et presque en même temps, la pensée de Thérèse s'offrit à lui. « Si je tuais l'écureuil, se dit-il, j'aurais un prétexte pour entrer chez M. Maldon, et avec un peu de bonheur, je rencontrerai Mlle Thérèse. » Je verrais au moins la maison qu'elle habite, le milieu où elle vit, quelque chose de plus que ce que je connais d'elle. Pourquoi pas ? La tentation devint si forte que le jeune homme étendit la main et saisit au crochet d'un porte-manteau une carabine avec laquelle, au temps des vendanges, il abattait des griffes de vigne. Il appuya l'arme sur l'assise de la fenêtre. L'écureuil tourna sa tête futée et comme pour fuir. Claude pressa la détente et se redressa aussitôt. De la jolie bête de tout à l'heure, il ne restait qu'un paquet de poils pendus par les pattes de derrière à la branche de l'acacia. En 3 bonds, poussé par l'ivresse d'un coup heureux, comme un chasseur de 15 ans, le jeune homme fut au pied de l'arbre. Le sang coulait de la blessure à gouttes rouges et lentes, roulait sur le cou, perlait au bout de l'oreille, agité à chaque fois d'un frisson et tombait sur l'herbe en taches que buvait la terre. Claude se trouvait affreusement cruel. Une pitié, comme une souffrance humaine, aurait pu la faire naître, s'emparait de son esprit. Les pattes qui retenaient l'animal, tremblantes d'un spasme de mort, se desserraient par degrés et, tout à coup, ressaisissaient la branche. Et les petits ongles blancs criaient sur l'écorce. Ils lâchèrent enfin. La bête, enveloppée dans un journal, Claude eut bientôt fait d'oublier le meurtre. Il pressentait d'une aventure. Mais laquelle? Comment la nouer? Parlerait-il à M. Maldon? Quelle sorte d'homme découvrirait-il en lui? Arriverait-il jusqu'à Thérèse? S'il parvenait à la revoir, quelle impression lui ferait cette jeune fille, dans un cadre tout différent de celui où elle lui était apparue? Son imagination n'allait pas au-delà de ce point. Il lui suffisait, pour secouer la monotonie de l'heure présente, de ce très simple, très innocent projet, se faire présenter à une enfant encore mystérieuse et qui lui avait plu. Vite, il monta dans une chambre voisine de la sienne, pour feuilleter un vieux buffon relié en veau avec des aquarelles pâles, délices de sa jeunesse. Il se remit en mémoire des noms de tribus, de familles et d'espèces, relut des passages dont la sonorité lui était encore familière, et préparé de la sorte à son entrevue avec l'ornithologiste, parti pour la ville dans sa carriole anglaise. Vers 4 heures, il se présentait, son paquet sous le bras dans la cour du musée, vieil édifice du XVe siècle en pierre toute dentelée par l'homme et toute brunie par le temps. Le concierge eut l'air étonné de voir quelqu'un. « Monsieur Maldon, dans la tourelle au deuxième ?» Claude se mit donc à grimper dans l'escalier tournant. Il courait presque, enjambant de la droite ses marches basses, d'un grain si banc et d'une pente si douce, faite pour un pied de châtelaine. Le bruit de ses pas, répercuté par l'écho à tous les étages de cette cage légère, avait une sonorité à réveiller M. Maldon, si le bonhomme avait dormi. Mais M. Maldon, dormir, quelle idée! À peine Claude eut-il ouvert la porte cintrée, au-dessus de laquelle pendait un écriteau « Cabinet du conservateur », il aperçut le naturaliste devant une table, logé dans l'épaisseur du mur près de la fenêtre. M. Maldon, assis, un scalpel à la main, était penché au-dessus d'une masse de plumes roussâtres. Autour de lui, dans la salle ronde voûtée en ogive, des tortues de mer, des scies de squales, un crocodile, deux ou trois singes, pièces fatiguées attachées au mur, et en belle lumière, près du vitrail, le seul objet élégant et brillant qui fut là, une aquarelle. Il se leva vivement et, les paumes appuyées au bord aigu de la planche, sa tête maigre tournée vers l'étranger, la barbiche dardée en avant par la pince-nez, des lèvres parut demander « Que voulez-vous ?»« Monsieur, dit Claude, je crois que vous chargez de préparer, il n'osa pas dire d'empailler, même les animaux qui ne sont pas destinés au musée. » « Oui, certainement, monsieur. J'ai, cet après-midi, tiré un coup de carabine. »« En temps prohibé, » dit M. Maldon en se rasseyant. « Oui, et j'ai tué ceci. » Claude développa le papier et se sentit rougir en constatant l'état lamentable du contenu, comprimé, bossué, maculé de sang, méconnaissable. Il tendit quand même l'objet à M. Maldon, qui partit d'un éclat de rire sonore, pareil au cri des geais qui se poursuivent dans les bois de chêne. « Encore un !» s'écria-t-il. « Je l'aurais parié. L'écureuil commun, Sciurus vulgaris, et avec des avaries. » Il s'arrêta de rire, de peur de blesser son revisiteur, et ajouta avec un accent ironique dont la gaieté faillit gagner Claude. « Dites-moi, monsieur, le voulez-vous monter sur un cylindre percé qui représente son nid ou bien debout, l'épée à la main, dans l'attitude d'un duelliste ou encore accroupi, la trompe de chausse en sautoir? Ce sont les trois positions préférées des amateurs de la ville. » « Bon Dieu, » fit Claude en hésitant, car l'idée du nid lui était venue. « Comment le poseriez-vous donc, vous, monsieur ?» Les yeux de M. Maldon lancèrent une flamme. « D'abord, dit-il, ni lui ni ses pareils ne valent la peine d'être montés. Mais si j'entreprenais de le faire, je camperais la bête comme elle est, à l'état sauvage. Monsieur, je la saisirais, par exemple, au moment où elle vient de bondir sur un arbre et se sauve. Passez-la-moi. Tenez comme ceci, la tête tournée de côté, l'œil grand ouvert, le corps aplati contre le tronc, une cuisse allongée, ou bien quand elle saute à terre pour y ramasser une faine. Le museau baissé, alors, le corps en arc, la queue en arc, un petit point rouge à deux arches. Et si vous le préfériez au repos, je l'endormirai sur la fouche d'un frêne, les yeux mi-clos, mais l'oreille droite. Voilà, monsieur, ce qui serait de l'art. « Je sais, répondit Claude timidement, que vous êtes un artiste, monsieur, et je suis confus de vous confier une besogne aussi peu digne de vous. » M. Maldon jeta l'écureuil sur la table. « Bon, dit-il avec un soupir, il le faut bien. La pie, le jet, la huppe et le martin pêcheur, des familles, la hure de sanglier, le bois de chevreuil des chasseurs, c'est avec l'écureuil le menu quotidien. Bon, je me dédommage avec les pièces rares. » Vous avez en effet une fort belle collection. Oui, tous les oiseaux du département. Sans exception. L'ornithologiste eut un mouvement de surprise. Quelque chose d'inquiet passa dans son regard. En connaîtriez-vous une par hasard? Mon Dieu, monsieur. Mais citez-la, je vous en prie. Citez-moi un oiseau du pays qu'on ne trouve pas, soit au musée, soit chez moi. Claude tressauta. Il se sentait en plein sur la voie qu'il cherchait. S'il parvenait à tomber juste sur un de ces spécimens que M. Galdon gardait jalousement chez lui, tout arrive, qui sait? Il fouilla les profondeurs de sa mémoire et jeta ce nom d'un air de doute. Le faucon pèlerin? M. Maldon, rassuré, indiqua du doigt la porte derrière lui. Deux exemplaires au musée, répondit-il. La mouette rieuse? Commune. Le butor? Bon, je refuse ce qu'on m'apporte. Claude, par un dernier effort, trouva dans ses souvenirs un nom retentissant, et le lançant à M. Maldon, qui attendait le coup, l'œil clair, la mine légèrement railleuse et flattée. L'aigle Pigargue, dit-il. Hé, reprit M. Maldon, avec une moue de gourmet. Oh, la bête est rarissime, en effet. C'est à peine si de temps à autre, il s'en égare dans la poursuite des pies sauvages qui remontent la Loire. Eh bien, je l'ai, monsieur. Pas possible. Oui, chez moi. Chez vous, monsieur. Oui, tué de ma main. Un vrai pigargue? Puis il n'y en a pas de faux. Non, monsieur, dit Claude. Oh, je n'aurais pas cru qu'un simple particulier pût posséder. Par exemple, je vous le prouverai, dit M. Maldon en se levant, tout rouge de l'émotion du collectionneur animé par le défi et sûr de son triomphe. Avez-vous une demi-heure à perdre? Je suis libre, monsieur. Alors venez, accompagnez-moi jusqu'à la maison et vous le verrez. Je la verrai, pensa Claude, dissimulant sa joie sous l'apparence d'un scepticisme poli. C'était l'heure où, sur toute la surface de la France, le fonctionnaire s'évanouit et l'homme s'épanouit. Le déclin du soleil brise des milliers de chaînes qui se renouent au matin. Le conservateur du musée se retira dans un coin de la salle pour changer sa veste de travail contre une redingote noire qui dessinait son torse maigre, se coiffa d'un chapeau de paille à bord plat et prit une canne de buis à gros nœuds. Pendant ces préparatifs, Claude s'était approché de l'aquarelle pendue près de la fenêtre. Elle représentait, à demi caché dans les roseaux d'un étang, un chasseur qui rabattait son arbre après avoir tiré. Le canon fumait encore. Un oiseau fuyait, déjà très loin, rasant la nappe claire de l'eau. Tiens, dit Claude, quel est cet oiseau bleu que le chasseur vient de manquer? M. Maldon se détourna vivement, sans prendre le temps de passer la dernière manche de sa redingote. Bon, répondit-il, peu importe. Des oiseaux bleus, il y en a de beaucoup d'espèces. De perruches, par exemple, des colibris. Oh non, ce n'en est pas un, assurément. On dirait plutôt un canard. Ne trouvez-vous pas? Venez, monsieur, dit M. Maldon en s'avançant et légèrement embarrassé. La peinture ne doit pas avoir grand intérêt pour vous. C'est un souvenir, un cadeau d'ami. Allez, venez. Claude jeta un dernier coup d'œil sur le chasseur malheureux, qui lui parut en ce moment ressembler au conservateur du musée, et, traversant le laboratoire, descendit l'escalier. Son compagnon avait un jarret d'acier et des yeux sans cesse en mouvement. Il longea d'abord, au pas accéléré, presque sans rien dire, ces files de maisons devant lesquelles il passait quatre fois le jour, tout occupé à saluer de la main les gens qui lui souriaient ou se découvraient devant lui. Puis, le faubourg franchi, des bouts de haies commencèrent à rompre la ligne des murs, et la campagne apparut. Culture de maraîchers et vastes pépinières, où la ville enfonçait encore çà et là le coin d'une bâtisse neuve. Presque partout, des deux côtés de la route, des forêts minuscules d'arbres verts, des taillis, drus comme les poils d'une brosse, de noisetiers, de hêtres, d'érables, des groupes de jeunes marronniers levant leurs bouquets de feuilles, comme des palmiers d'oasis au-dessus des files naines de poiriers ou de fusains, tout cela coupé en carrés, par des fossés sans herbe. M. Maldon, dès qu'il se sentit enveloppé de ce paysage familier, ralentit sa marche et donna libre carrière à son esprit. Tout l'intéressait à présent. Le moindre détail du chemin, les vols d'oiseaux surtout, que le soir attirait vers les nids et qui s'éparpillaient, balles de plumes bondissantes, dans l'air tiède et doré. Il les nommait les uns après les autres, Bruant, Verdier, Lineau, Alouette, Pinson, Fauvette. C'était son monde qu'il présentait à Claude. Sa conversation abondait en choses vues et fines. Il s'animait, il était quelqu'un. Sous les pieds des promeneurs, de la terre aux ombres courtes où elle était blottie, une alouette se leva, monta dans la lumière, agitant toutes ses plumes, plana et redescendit sans avoir interrompu son chant. M. Maldon l'avait suivi avec une expression de tendresse qui ne s'adressait point à l'oiseau, mais avec un de ces sourires qui vont droit à une joie prochaine. L'alouette chanteuse était pour lui qu'un symbole. Et en effet, quand elle se fut assise dans les mottes, Claude remarqua que le regard de M. Maldon se posait en avant, sur un parc entouré de murs. « Oh, c'est là !» se dit-il. On ne distinguait encore que des arbres devenus superbes aux cimes arrondies, retombant ou découpés en fuseaux légers sur le ciel, mais point de maison. Bientôt le vieux mur d'ardoise crevassé, auquel la mousse servait de ciment et que couronnaient des giroflées défleuries, étendit son ombre sur la route. Vers le milieu, deux piliers de tuffeau surmontés de chapiteaux encadraient un portail massif, hérissé de clous formant des arabesques et décoré d'un pied de sanglier. De toutes parts, les branches débordaient en ourlets verts l'arête de la pierre. Même à ceux qui passaient, le domaine donnait l'impression fugitive de la paix. « Faut-il avoir de l'esprit pour se loger là ?» songeait Claude. « Quel parfum ça doit être au printemps ! Comme c'est doux l'été ! En hiver même, on est abrité du vent. Et voilà où vous demeurez, mademoiselle. Oh, ça ne m'étonne point. Cela même me confirme dans l'idée que je me suis faite de vous. » M. Maldon poussa une petite porte qui fit en s'ouvrant comme une déchirure dans le vaste panneau de bois. « Entrez ! » dit-il. Oh, ce premier pas dans la terre promise ! Derrière la porte, les lilas, les ébéniers et les acacias, 100 arbres d'essence choisis et mêlés se rejoignaient au-dessus du sable encore humide de la dernière pluie. Des fleurs fanées à demi jonchaient le sol, échauffées par les traînées de soleil qui tombaient de la voûte, répandaient une odeur sucrée. À 20 pas, en face, deux grandes fenêtres ouvertes buvaient l'air divin. Les deux hommes suivirent l'avenue. Il y eut quelques bruissements d'ailes dans les cimes. La maison se découvrit tout entière, plus large que haute, enveloppée par les deux branches de l'allée qui devaient se rejoindre au-delà. M. Maldon traversa un vestibule, poussa une porte à gauche et s'effaçant le long du mur. « Mon cher monsieur, dit-il, vous ai-je trompé ?» Sur la cheminée, au fond de l'appartement, un aigle, le cou tendu, déployait ses ailes immenses. « 2,20 mètres d'envergure, reprit le naturaliste, et regardez-moi ces moustaches, des pennes blanches de la cuisse, les écailles de la patte, est-ce un pigard oui ou non ? En est-ce un ?» Claude s'était déjà détourné de l'oiseau et saluait un peu confus une femme qu'il n'avait point aperçue tout d'abord, assise près de la fenêtre. Madame Maldon écrivait, sur des ronds de papier d'égal rayon, « Groseille, 1889 ».« Qu'y a-t-il ? » demanda le naturaliste en entrant après Claude. « Oh, ma chère, pardon, un client d'aujourd'hui, monsieur Claude Revel, peut-être un disciple futur, qui ne voulait pas croire à mon pigargue. Je l'ai amené. » Claude s'inclina et madame Maldon lui rendit son salut d'un léger mouvement de la tête, avec cette gravité inquiète qui caractérise les personnes timides. « Vous aimez l'histoire naturelle, monsieur ?» demanda-t-elle. « Oh, je ne suis qu'un débutant, madame, » répondit Claude. « Mais non, puisque vous discutez avec mon mari sur les espèces rares, êtes-vous convaincue ?»« Absolument, madame. » « Bon, monsieur, irait très loin en ornithologie, s'il le voulait, » dit sentencieusement M. Maldon. « Oh, monsieur, très loin, oui, je le répète. Vous en avez causé en chemin, et vous aviez tout l'air de vous intéresser à la chose, monsieur. »« Et avec un pareil guide, » dit Claude. Il disait cela par politesse. Mais Mme Maldon le prit autrement. Une lueur, comme un reste de jeunesse, éclaira son visage. Elle regarda son mari d'un air de ravissement. Quelqu'un lui rendait donc justice, à lui, devant elle. Quel rare plaisir! Elle fut à l'instant jolie de l'émotion délicate de son cœur. « Pauvre ami, » fit-elle, « oh, si vous saviez, monsieur, tout ce qu'il y a eu à souffrir de la part de directeurs inintelligents, incapable de le comprendre. Heureusement qu'il s'est imposé par son talent. Pour organiser cette collection la plus belle de toute la province, il a fallu plus de travail. Geneviève, interrompit M. Maldon, aussi désireux qu'elle d'entendre achever la phrase. Oui, plus de travail, d'adresse, de science et d'observation qu'à des artistes célèbres, enrichis, fêtés. Mais fêtés! « Est-ce que je ne le suis pas, hein, ici, Geneviève? Tout le monde me gâte, au contraire. Voyons, voyons, au lieu de nous attendrir inutilement sur mon sort, s'il nous offrait un peu de sirop. La soirée est étouffante, et monsieur doit avoir aussi chaud que moi. Thérèse !» Madame Maldon fit un geste d'avertissement désespéré, comme pour dire. « Mais à quoi penses-tu, mon ami? Tu sais bien que c'est impossible, elle ne peut pas venir. » Mais il était trop tard. Mademoiselle Thérèse avait entendu. Elle était déjà là, dans l'encadrement de la porte opposée à celle de l'entrée. Toute rose, la lèvre supérieure légèrement relevée, laissant voir quatre dents blanches, le nez petit, les yeux grands, les sourcils un peu étonnés, un vrai modèle de Greuze. Et pour parfaire la ressemblance avec les types préférés de ce maître des scènes intimes, elle avait un petit tablier, les manches retroussées, et sur ses mains mignonnes, sur ses bras, la plus belle couleur rouge qu'on puisse imaginer. Mademoiselle Thérèse devait faire des confitures. En apercevant un étranger, son premier mouvement fut de rire. Elle se trouvait drôle ainsi. Une seule chose paraissait la gêner, son petit tablier à bretelles. Aussi, de la main droite, elle cherchait discrètement la grappe de la ceinture, tandis qu'elle regardait tour à tour son père, sa mère et Claude, avec les mêmes yeux pleins de fou rire contenu. « Folle que tu es !» dit M. Maldon en lui donnant ses deux bras, qu'il retira aussitôt, par respect des convenances. « Apporte-nous de ce sirop de framboise que ta mère fait si bien !» Elle voulut répondre. Mais les mots n'obéissent pas toujours. On entendit d'abord un éclat de rire étouffé, puis une fusée de notes claires, débordantes, épanouies comme une chanson de printemps, qui diminua, s'assourdit et s'éteignit dans le lointain. Mademoiselle Thérèse s'était enfuie. Elle revint, 5 minutes après, sans tablier, les manches baissées, la mine sérieuse, portant sur un plateau 2 verres, une carafe d'eau fraîche et un carafon de sirop, le tout si propre, si net, que quand elle entra dans le rayonnement de la fenêtre, tous les massifs du jardin se mirèrent aux facettes de cristal. Claude la regarda poser le plateau sur la table à ouvrage, se redresser et se retirer derrière une chaise, les mains appuyées au dossier. « Ah, je vois, mademoiselle, dit-il, que vous êtes déjà initiée aux recettes du ménage. Il n'y a rien d'étonnant à cela, répondit Madame Maldon. Nous vivons ici assez loin de la ville pour nous considérer comme des campagnards. Nous en avons les goûts et même quelquefois les défauts, ajouta-t-elle en enveloppant sa fille d'un regard très doux. où il y avait une ombre de reproche. « Voyons, mère chérie, est-ce bien grave ?» reprit vivement Thérèse. « Je vous croyais seule. Je suis venue comme j'étais, monsieur, à bien deviner, allez. N'est-ce pas, monsieur, vous avez deviné que je faisais des confitures ?»« Mais du premier coup d'œil, mademoiselle. »« À mes mains ?» reprit-elle en étendant ses doigts qui jouaient sur le dossier de sa chaise. « Mais oui, mademoiselle, et peut-on savoir quelle sorte de confiture ?» Elle eut un hochement de tête de commisération pour une ignorance pareille, et dit « Mais de groseille, monsieur, en cette saison-ci, que voulez-vous que ce soit autre chose ?» Puis, subitement, ses yeux s'animèrent, leur gravité d'emprunt tomba comme un voile, et la jeunesse qui était derrière, la belle jeunesse, limpide et hardi, réapparut. « Les groseilles, s'écria-t-elle, voilà un fruit que j'aime. »« Vraiment, mademoiselle ? Cela vous étonne, monsieur ?»« Un peu, oui, je l'ai toujours trouvé médiocre. »« Mais moi aussi, monsieur, mais ce n'est pas pour leur goût que j'aime les groseilles. »« Et peut-on vous demander pourquoi ?»« Parce qu'elles ont l'humeur égale. » Avec elle, on sait sur quoi compter. Tous les ans, cela donne, tandis que les abricots, les pêches, les cerises, même, pour un coup de vent, pour une gelée, s'en vont en feuilles. Eh bien, moi, j'ai une préférence pour tout ce qui ne trompe pas. Elle était charmante, disant avec conviction ces choses fraîches. À la bonne antique et à votre santé, dit M. Maldon, qui avait rempli les deux verres et en levant le sien. Claude s'inclina très légèrement du côté de la maîtresse du logis. Et c'était un spectacle assez rare, ces quatre personnes contentes à la fois. Madame Maldon d'avoir loué son mari, le mari d'avoir un disciple, Thérèse de deviner l'hommage discret rendu à sa jeunesse, Claude de se trouver en pleine réussite de ses projets, au milieu d'aussi braves gens groupés sous les ailes du Pigargue, qui lui avait servi d'introducteur. Le naturaliste, beaucoup moins oublieux que son hôte du prétexte sous lequel celui-ci était venu, détourna la conversation vers son sujet préféré. Il raconta, ce devait être ni la première ni la seconde fois, l'histoire du coup de fusil qui lui avait valu ce trophée de chasse, principal ornement du salon. On fit tous ensemble et sous sa direction une station devant la cheminée. Là, sous une cloche de verre, il y avait un chef-d'œuvre de patience et de goût, une collection d'oiseaux des îles, ou du pays, au plumage éclatant, posé dans toutes les attitudes de la vie, les ailes éployées ou croisées, mangeant, buvant, dormant la tête enfoncée sous les plumes, abritant leurs œufs menacés ou marchant inquiets au milieu des poussins, vêtus comme des graines de soucis d'un duvet plus long qu'il n'était gros. M. Maldon, mis en verbe, ne tarissait pas. Il possédait une mémoire prodigieuse des circonstances, des lieux, des dates. L'auditoire suffisait à l'animer. Claude, souvent distrait, regardait à la dérobée ses voisines, proches chez Thérèse, un peu moins que sa mère, écoutant toutes les deux avec l'attention de la tendresse que rien ne lasse. Et cette alouette blanche, disait l'une, et ce guêpier doré, disait l'autre. Cependant, deux fois déjà, le bonnet d'une fille de charge apparu dans l'entrebâillement de la porte s'était retiré devant un signe discret de la maîtresse du logis. La troisième fois, le bonnet entra. Il était précédé d'une assiette, le dîner attendait. Claude battit en retraite et personne ne le retint, bien que tous eût du regret de le quitter. Mais la coutume, l'heure sacrée, oh, servitude naïve et forte. « Nous nous reverrons, » demanda M. Maldon. Claude, avant de répondre, suivit des yeux Thérèse qui traversait l'appartement pour aller pousser un battant de la fenêtre, flamboyant sous la lumière du couchant. Elle marchait sans bruit, la tête droite, son cou délicat, ombré de mèches folles. Sans paraître y prendre garde, elle l'écoutait. Claude eut cette impression très nette qu'elle n'était pas indifférente à ce qu'il allait répondre. Peut-être eût-il éludé l'invitation et brisé l'aventure, n'emportant que le souvenir agréable de l'accueil qu'il avait reçu et l'image renouvelée, embellie de cet enfant. Mais la nuance d'attention qu'il crut saisir chez Thérèse, la grâce aussi de cette tête un peu fière qui se dessinait sur la baie lumineuse en décidèrent autrement. « Je crains, répondit-il, d'être un élève médiocre, mais je reviendrai volontiers. »« Convenu, reprit le naturaliste. Vous me trouverez presque toujours le soir au jardin où j'ai mon laboratoire, là-bas, vous voyez. »«
Le jardin, dit Thérèse à demi détournée, c'est ce qu'il y a de plus joli ici. »
Claude fut sur le point de répondre. « Oh non !» Mais il le pensa, et elle le devina. Il se sentit rougir, et M. et Mme Maldon se demandèrent pourquoi il n'était plus jeune. « Eh bien, dit-il, je reviendrai un soir après dîner. » Il salua les deux femmes, serra la main de M. Maldon, traversa de nouveau, cette fois les yeux à terre, le bosquet qu'il avait tant admiré une demi-heure plus tôt, et se retrouva sur la route. Il s'étonnait de l'émotion vague qu'il éprouvait de ce qu'il avait été, timide en somme et un peu gauche. Ces gens très simples par leur simplicité même, leur cordialité vraie, l'avaient jeté en dehors des phrases convenues. Il avait promis de revenir. Se proposait-il de devenir l'élève de M. Maldon? Non, ce n'était pas sérieux. Alors, d'ordinaire, ses actes étaient plus réfléchis. Puisque je l'ai promis, se dit-il, je reviendrai. Mais je mettrai un intervalle entre cette première visite et ma seconde. Il se rendait compte qu'il avait obéi, et c'était une récidive, à l'attrait de cette jeune fille, la fille d'un simple conservateur de musée de province. Mais il n'insista pas et chercha sur la route quelque chose qui pût lui éviter vis-à-vis de lui-même l'aveu complet de sa faiblesse. À 30 pas, un homme venait, vêtu de telle façon qu'il ne pouvait passer inaperçu à cette heure et à cette place, jaquette claire ouvrant sur un gilet blanc, chapeau gris, cravate ornée d'une épingle. Au moment où il croisa Claude, il le considéra attentivement et reporta les yeux vers l'enclos des Maldon. Il se demandait sûrement, mais d'où vient-il? Claude pensa de même, mais où peut-il bien aller? Et quand il se fut éloigné de quelques 100 mètres, à l'endroit où les premières masures s'élevaient au bord du chemin, il se détourna. Là-bas, devant le portail vert, l'inconnu s'était arrêté. Il avait le bras levé vers la sonnette et par-dessus son épaule, il regardait Claude. Chapitre 5. Les semaines s'en vont vite tant que le cœur de l'homme ne s'intéresse point à leur fuite. L'impression que la visite au logis des pépinières avait faite sur l'esprit de Claude s'était effacée, ou plutôt elle avait disparu de la surface, comme les graines de fleurs fragiles dont se couvrent matin les étangs. Elle tombe invisible, mêlée à 1000 débris de poussière que rien ne ramènera jamais du fond obscur où ils s'amassent. Elles sont confondues avec eux. Mais en elles, un germe de vie est demeuré. Rien ne l'annonce. Sur lui pèse la masse des eaux, agitées ou dormantes, sans une tige, sans une feuille qui rappelle les végétations mortes. Il sommeille, puis un jour, de cet atome enseveli, un fil ténu s'élance. Il grandit, mystérieux encore, inaperçu. Nul ne reconnaîtrait en lui le passé qui revient. Et tout à coup, sans que rien ne l'ait révélé, une pointe d'or perce la surface, s'y épanouit en étoile et dit aux rives « Me voilà !» Claude, à la fin d'août, fut rappelé à la ville par ses obligations d'officier de réserve. Pendant 3 semaines, il se rendit à la caserne à 5 heures du matin, sanglé dans son dolman, admiré des ménagères qui ouvraient les contrevents, salué par les hommes de garde. commanda le maniement d'armes et quelques mouvements d'ensemble, savoura la douceur de l'autorité indiscutée, parla de la France avec plus de fierté, de la guerre avec des frissons d'espérance, et fut pris deux ou trois fois, tant il portait bien l'uniforme, pour un sous-lieutenant de l'active. Vinrent les manœuvres. Ce fut d'un jeu pour un chasseur comme lui rompu à la marche. Et certes, tant qu'elles durèrent, les cantonnements chez l'habitant, les réceptions dans les châteaux, les longues étapes où l'on cause, les batailles pour rire où le cœur saute pourtant de la même émotion que si les balles sifflaient, ne laissèrent pas à Claude un moment d'ennui. La veille au soir du désarmement, il éprouva pour la première fois un peu de lassitude, mêlé à un regret vague d'une carrière trop tard connue, trop tard aimée. La journée était finie, les hommes regagneraient le lendemain leur foyer, lui-même il quitterait le galon d'or et les camaraderies bruyantes du régiment, et lui se promenait, après le dîner, triste de retomber dans l'habitude et le connu de la vie, quand le souvenir lui revint des pépinières et du rendez-vous à M. Maldon. Claude regarda, avec une complaisance involontaire, la tenue qu'il avait encore le droit de porter, leva les yeux pour s'assurer de l'humeur du temps, se sentit tout joyeux de constater qu'il faisait beau et partit. C'était un de ces soirs de septembre où la lueur dorée qui traîne au couchant prolonge presque indéfiniment le crépuscule. Elle rayonne dans tout le ciel. Et si la lune monte alors au-dessus de l'horizon, il n'y a pas de nuit, mais un jour lunaire qui continue l'autre et pose sa lumière bleue sur le sol tiède encore du soleil disparu. Claude allait, un peu ému, porté par une sorte d'espérance sans objet, et douce cependant. Il aspirait à plein poumon l'haleine des crépuscules qui grisent les merles et les fait chanter, certains soirs même après les premières étoiles. Des choses rimées, des débuts de romance fredonnaient dans sa mémoire. Quand il aperçut le bosquet des Maldon, immobile au milieu de la campagne rase, les cimes des arbres encore touchées par la lumière et comme évanouies en elle, « Sous ces ombrages, murmura-t-il, à pas lent et rêveuse. » Thérèse Maldon se trouvait tout simplement au salon quand Claude y entra. Pas rêveuse du tout, assise près de la table qu'entourait avec elle son père, sa mère et Robert. Celui-ci disait à haute voix. En entendant le domestique ouvrir la porte et le cliquetis d'un sabre, il ferma le livre sur un de ses doigts. Les deux femmes s'étaient levées. M. Maldon venait au-devant de Claude, l'air épanoui et les mains tendues. « Cher monsieur, dit-il, oh, vous nous surprenez agréablement. Je pensais que vous nous aviez oubliés. Permettez d'abord que je vous présente. » Il se tourna vers Robert, assis de l'autre côté de la table. « Monsieur Claude Revel, un naturaliste amateur, un futur élève. » Puis vers Claude, « Mon beau-frère, Robert de Kérédol. Ah, je crois avoir eu l'honneur de rencontrer monsieur sur la route, lors de ma première visite, » dit Claude, très aimable et s'inclinant. Monsieur de Kérédol se souleva, les mains appuyées au bras du fauteuil. « Mais en effet, dit-il poliment, c'est bien la seconde fois que nous nous rencontrons. » Cependant, au ton dont il disait cela, il était facile de deviner que la première lui eût suffi. Sans rien ajouter, il considéra Claude de la tête aux pieds, comme autrefois, il examinait un soldat aux revues du dimanche, sourit faiblement et roula un peu son fauteuil en arrière. Thérèse lui jeta un coup d'œil qui demandait « Mais pourquoi vous retirez ?» Il ne parut pas s'en apercevoir. Le cercle se reforma sans qu'il y fût compris, près de la fenêtre par où venait le parfum violent des géraniums. « Madame, dit Claude, debout et la main gauche redonnant son sabre, je suis désolé d'interrompre votre lecture. Si je suis entré, c'est qu'on m'a prévenu que M. Maldon ne se trouvait pas au jardin. » « Mais vous ne nous troublez rien, monsieur, je vous assure, dit Madame Maldon en retouchant les plis du fichu de tulle
noué autour de son cou. La lecture pourra se reprendre bien facilement. Désarmez-vous, je vous prie.
Et asseyez-vous, dit M. Maldon, que nous nous voyons un peu, après quoi nous irons tous deux causer histoire naturelle.
Claude sortit pour accrocher son sabre au porte-manteau, puis revint s'asseoir à droite de Thérèse en face de Mme Maldon.
Croyez-vous, monsieur, dit celle-ci, que nous lisions un conte?
Il y en a de si sérieux, madame.
Un conte de Daudet.
Oh, un chef-d'œuvre, alors. On n'a rien écrit de pareil en prose du midi.
N'est-ce pas, monsieur, dit Thérèse en considérant d'un air d'admiration ce bel officier qui parlait littérature.
Je n'ai rien lu qui me plût autant. Il y en a un surtout.
Oh, c'est que nous avons chacun nos préférences, interrompit Madame Maldon avec une certaine vivacité, résultat sans doute des discussions antérieures.
Moi, j'aime par-dessus tout le conte des vieux. L'aimez-vous, monsieur?
Oui, beaucoup, madame.
C'est si touchant.
Moi, fit Monsieur Maldon, les aventures d'un perdreau rouge. Exact, mon cher monsieur, écrit par un chasseur. Vous l'aimez aussi, celui-là?
Oh oui, je le crois bien, et vous, mademoiselle? Les étoiles, répondit-elle en relevant la tête d'un mouvement souple et fier vers la bande de ciel de la fenêtre.
Aucune étoile n'apparaissait encore, mais on eût dit qu'elle les voyait toutes, tant il y avait de clarté dans le regard qu'elle détourna ensuite vers Claude. Elle ne posait pas, elle ne simulait rien. Un des mots qu'elle aimait, un de ceux qui ont de l'infini, lui était monté aux lèvres. Et cela suffisait pour qu'elle fût émue. Claude reprit. « Et pourquoi ce conte mieux qu'un autre, mademoiselle ?»«
Ah, voilà, dit-elle. C'est que je comprends si bien le pâtre de Dodo d'avoir une étoile préférée à laquelle on parle. Nous avions une, mon parrain et moi, quand j'étais plus petite. »
Et les jolis yeux clairs cherchèrent de nouveau dans l'espace, et une main de jeune fille, transparente et voilée d'ombre blonde, s'étendit vers la lumière.
« Tenez, monsieur, là-bas, au-dessus des sorbiers. C'est là qu'elle se lève. Souvent nous l'attendions, et quand elle paraissait, nous en ressortions une joie. Et de son côté, elle nous semblait nous reconnaître. Il y avait chez elle, je vous assure, de l'amitié pour nous, comme dans les yeux d'une personne chérie.
« Thérèse !» fit une voix au fond de l'appartement. Les quatre personnes groupées auprès de la fenêtre se détournèrent en même temps vers M. de Kéridol. Il était penché en avant et tenait, fermé sur un de ses doigts, le petit in-18 à couverture crème. Ses lèvres un peu railleuses, le pli plus accentué de son front entre les sourcils, indiquaient seuls une lutte intime, une colère ou une souffrance dont il voulait demeurer maître, et qui se trahissait pourtant.
Vous oubliez, Thérèse, dit-il, que nous ne sommes pas seuls ici. De pareils enfantillages ne sauraient intéresser un étranger.
Mais je vous demande pardon, répondit Claude en se levant. Ce que dit mademoiselle est charmant.
Peut-être, repartit M. de Kéridol avec le même flemme impertinent. Mais je vous croyais passionné pour l'histoire naturelle, monsieur. Et c'est de l'astronomie.
Claude, que sa belle humeur de jeune homme ne quittait pas volontiers, se brida à rire.
De l'astronomie, monsieur, croyez-vous?
Ce qu'il y a de sûr, interrompit M. Maldon en se levant à son tour, c'est que mon cher beau-frère ne serait pas fâché de reprendre sa lecture.
Moi, mais je n'ai pas dit cela.
Non, tu le penses seulement. Eh bien, achève, mon ami, replonge-toi dans l'histoire de l'élixir du père Gaucher. Nous autres, nous sortons. Nous n'aurons rien à vous envier. Car il fait un soirée admirable.
Il répéta en désignant l'horizon.
Oui, admirable.
Et le mot tomba au milieu du silence embarrassé de tout le monde.
C'est bientôt nous quitter, monsieur, dit enfin Madame Maldon. Et j'insisterai si mon mari n'était pas très heureux de vous avoir pour lui seul.
Les yeux de Mademoiselle Thérèse, grands ouverts et tournés vers Claude, exprimaient le même regret. Mais elle n'en dit rien. Elle se contenta de sourire aimablement quand Claude s'inclina devant elle
et de suivre du regard, jusqu'au moment où la porte se referma sur lui, ce jeune lieutenant de réserve qui partageait toutes ses prédilections pour les étoiles de Daudet. Claude, qui avait salué très froidement M. de Kerédol, se trouva seul dans le corridor et bientôt dans le jardin avec M. Maldon. «
Un peu étrange, mon beau-frère, n'est-ce pas ? » dit celui-ci timidement.
« Mon Dieu, répondit Claude, il y a tant de gens qui n'admettent pas qu'on trouble une de leurs habitudes.
« Mais c'est précisément cela, repartit le naturaliste. Il a la passion des récits, des histoires, des lectures, et tout s'il interrompt l'émeut incroyablement. Un homme excellent, au fond, je vous assure, et si dévoué pour nous tous, un si bon ami. »
Tous deux, ils avaient pris côte à côte la grande allée qui coupait le jardin par le milieu. Il restait encore un peu de jour. Des souffles frais commençaient à descendre avec l'ombre. En même temps, la terre qui avait bu le soleil exhalait des bouffées chaudes et imprégnées du parfum des résédas, des pétunias, des géraniums, dont il y avait une profusion autour des massifs de légumes. Entre ces quatre murs flanqués d'un rempart d'arbres, il embaumait comme une cassolette le potager de M. Maldon. Le brave homme eut bien vite fait d'oublier Robert et l'incident de tout à l'heure pour ne plus penser qu'au monde familier du jardin. On a toujours le cœur pris aux choses qu'on a semées. Rien qu'à passer auprès de ces plates-bandes, il se sentait joyeux. Il s'épanchait en exclamations, en observations courtes. Tantôt faisait remarquer à Claude les touffes crépelées de ses asperges, une ligne de fraisier, une poignée de glaïeul autour d'un vieux cerisier. Tantôt, secouant un limaçon grimpait dans un rosier ou du bout de sa canne étêtant un sénesson épanoui sur sa route. À mesure qu'il avançait, les diversions se multipliaient. Il s'arrêtait devant ses laitues en graines et parlait à ses passes roses, douloureuses comme des flèches d'église et comme elles tout du long fleuries. Les deux promeneurs s'entendaient d'ailleurs à merveille. Chacun découvrait avec bonheur chez l'autre le même amour profond et la science de la campagne.
« Y avez-vous observé, mon jeune ami ?» disait l'un.
« Ah, assurément, cher monsieur, » disait l'autre.
« Alors vous comprenez que nous aimions les pépinières.
Autant que j'aime la couderie. » Quelque chose d'intime s'insinuait dans leurs phrases. Ils éprouvaient le même désir de prolonger l'entretien. Et le premier tour d'allée achevé, ils en commencèrent un second et d'autres encore. À chaque fois qu'ils se détournaient ainsi, tout au fond du jardin, et apercevaient au loin la maison voilée d'ombre, Claude éprouvait la même émotion à regarder une petite lumière, feu tremblant d'une bougie, veillant derrière les vitres. Était-ce la fenêtre de Thérèse et l'aimable jeune fille? Se penchait-elle quelquefois entre les plantes grimpantes qui s'enlevaient là, sur la muraille, comme des fumées brunes? Il y avait de quoi passer une heure avec cette simple question. Et M. Maldon se mit à causer d'ornithologie. Il y revenait, non pour remplir une promesse, mais d'instinct, emporté par la vieille passion, ouvrant ses souvenirs aux pages préférées. Il s'amusait. Il racontait, au beaucoup pour lui-même, un peu pour Claude. C'était déjà sa coutume avec M. de Kerédol. Et les histoires de chasse, lestement enlevées, s'en allaient l'une après l'autre à travers les buis et les passereaux endormis.
« Monsieur Claude, disait le naturaliste, voyez comme la nuit tombe vite à présent. Quelle heure admirable et que bien peu connaissent. Le coucher des oiseaux, leur dernier mouvement, leur dernier chant, qui donc l'observe? Et pourtant, figurez-vous qu'il m'arrive encore de passer des moitiés de nuit à l'affût ici même. J'emmène quelquefois ma fille. Elle aime ça comme moi. Nous nous cachons derrière un arbre et j'attends. Ce n'est pas pour tuer, vous comprenez, mais pour le plaisir de revivre le passé, de retrouver quelques-unes de mes impressions d'autrefois, quand j'allais à la lisière d'une taille guetter les oiseaux nocturnes ou les blaireaux qui roulent en grognant vers les vignes. Tenez, maintenant que la dernière
franges d'or s'est effacée là-bas. Où sont les martinets? Tous disparus, couchés. Et de même les pinceaux, les verniers, les lidos, tous ceux qui vivent du grain tombé. Quelques mangeurs d'insectes travaillent encore. Apercevez-vous cette mésange qui tourne autour d'une branche d'abricotier? Eh bien, elle va donner encore un ou deux coups de bec, puis renforcer sa tête dans ses plumes soulevées, et vous la distinguerez plus d'avec l'écorce. Les mères se chargent de la sérénade. Écoutez celui-ci. Tout à l'heure, il était à la pointe des sorbiers, et le voilà qui galope dans les fouilles de ronces, inquiet du gîte de la nuit et chantant pour le dire. Et quand il se sera tu, aucun oiseau du jour ne parlera plus. Ce sera le tour des hulottes, des orfraies, des rôdeurs nocturnes. Oh, les calomniers, ceux-là, cher monsieur, on les trouve laids. Mais rien n'est joli comme une orfraie au clair de lune. Nous en avons quelques-unes ici. Elles sortent de mes arbres en arrière de la maison ou du bois de Lorette. Aucun bruit ne dénonce leur vol. Leurs plumes sont fines comme des poils, blanches sur le ventre, jaunes sur les ailes. Et le vent coule au travers. Moi, je reconnais les orfraies au passage de leur ombre qui fait rentrer les mulots. Et que de drames, alors, dont nous sommes témoins. Monsieur Maldon, disait Claude, mais vous êtes plus jeune que moi. Ils causèrent ainsi longtemps encore, sans sortir de la même allée. Puis, comme ils arrivaient à l'extrémité du jardin, où 20 fois déjà il s'était retourné, Claude chercha devant lui la petite lumière et ne la vit plus. Aussitôt l'histoire qu'il écoutait perdit tout intérêt. Le froid de la nuit le saisit. Le jardin lui parut comme un grand désert morne. Rien ne trahit au dehors cette impression subite, et cependant, par une mystérieuse divination de l'esprit, Monsieur Maldon, presque en même temps, s'arrêta de parler. Il avait senti se briser le lien léger qui tient une âme attentive. « Voulez-vous que nous rentrions ? » dit-il. Tous les deux s'en revinrent en silence vers le logis qui grandissait dans la brume à chacun de leurs pas. Le toit était argenté par la lune, le reste plongé dans l'ombre, masse indécise, terre jusqu'à la base où pas une lueur ne veillait. M. Maldon entra le premier dans le vestibule et ouvrit la porte du salon. « Que ?» dit-il en se détournant vers Claude. « Tout mon monde envolé, plus personne. » L'appartement était désert, mais les meubles conservaient le souvenir de la dernière scène qui s'y était passée. Au pied du fauteuil de M. de Kerédol, qui tendait les bras vers la porte, le livre gisait sur le parquet. Il avait dû couler le long du siège de cuir où on l'avait posé, et tout meurtri, abandonné, il soulevait quelques-unes de ses pages blanches comme le fouet d'une aile blessée. Plus près de la fenêtre, 4 chaises formaient un demi-cercle, ouvert du côté du fauteuil. L'éclat qui les avait troublées, écartées les unes des autres, on le devinait, était venu de là. Sur le guéridon, un dé d'argent oublié faisait songer à une main fine de toute jeune fille. « Plus personne !» répéta M. Maldon. « C'est étonnant, il n'est pas très tard !» Il tira sa montre et l'exposa au jour douteux de la lune qui éclairait le vestibule. « Que 10h30 seulement ! Mais, ah voilà, quand Robert s'avise d'être fantasque, il ne l'est pas admis. » Je suis sûr qu'il a prétendu que nous ne reviendrions pas ici. Il est singulier, vraiment, ça en est drôle. Il riait un peu pour ne pas souligner la faute, mais au fond, il se sentait humilié. Suivi de Claude, il traversa le vestibule, puis le bosquet et tourna la clé dans l'énorme serrure du portail. « Bonsoir, monsieur Claude, dit-il. J'espère bien que nous ne resterons pas là. » Mais, dit le jeune homme, à condition de ne rien troubler. Venez au musée, repartit le naturaliste. Nous y serons entre nous. Vous, moi et les oiseaux. Est-ce accepté? Claude répondit avec moins d'ardeur.
Oh, sans doute, monsieur.
Mais j'y compte tout à fait, dit monsieur Maldon. Il tendit la main à Claude, et celui-ci, franchissant le seuil, put encore apercevoir un instant, dans l'entrebâillement de la porte, les yeux doux et plissés, la barbiche blanche de monsieur Maldon, qui du regard suivait son jeune ami et le mettait en route.